Eh bien, je propose qu'on commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez eu un bon début d'année, puisque on a passé le délai pour vous souhaiter les bons vœux. J'espère que tout s'est bien commencé. Je voulais vous dire qu'on a dû faire face, et vous avez pu le constater, à la grève du 15 décembre en fin d'année passée, pour laquelle l'université a fermé ses locaux, ce qui explique que la conférence a été supprimée. Et si j'ai bien vu ce qui circulait, vous avez normalement été prévenu par mail de l'annulation de la conférence, à moins que, et je profite de l'occasion pour le souligner, vous n'ayez pas dans votre formulaire d'inscription rempli d'adresse e-mail à laquelle on peut vous joindre. Si parmi vous, quelqu'un était concerné par ça, je lui conseillerais vivement de me communiquer son adresse, que je communiquerai au secrétariat, parce que ça devient le moyen de faire circuler rapidement l'information quand des changements surviennent. Donc voilà, j'espère sincèrement que vous avez pu être tous et toutes prévenus. Par rapport à cette date qui a été supprimée, ça entraîne certains changements au niveau du cycle. Un très directement ce soir, puisque malheureusement Yves Van Der Weken, qui devait intervenir sur Toucher et Automaton, ne pouvait pas être disponible, les dates ayant changé, et en raison de sa fonction de président de la NLS, la New Lacanian School, il ne peut malheureusement pas être parmi nous ce soir. Béatrice Bro, très gentiment, a accepté de nous faire un exposé quant à sa partie, mais qui sera beaucoup plus développée, et donc elle aura plus de temps de parole ce soir avec nous à partager. Et je voulais aussi vous dire que donc on a remanié, en fonction évidemment quand une date tombe, tous les conférenciers doivent réouvrir leur agenda. Donc on a remanié l'horaire. Je vais vous le lire avec y compris les titres de ce que chacun présentera. Donc ici au tableau, vous avez les dates et les noms. Donc le 16 du 3, il y aura Patricia Torrecuso qui interviendra sous le titre « L'asquise de l'œil et du regard ». Ça correspond à ce qui était dans le programme d'origine. Ensuite, nous aurons le même jour Bernard Sénave qui parlera sous le titre de « Qu'est-ce qu'un tableau ?». Donc ça, c'est pour la conférence du 16 du 3. Le 20 du 4, nous aurons Véronique Robert qui parlera de la sexualité dans les défilés du signifiant. Et nous aurons Guy Poblom qui parlera du démontage de la pulsion. Le 18 du 5, donc toutes les dates jusqu'à présent sont les dates prévues dans le programme, bien sûr, il n'y a pas de déplacement de date. Le 18 du 5, Anne Cosin parlera de l'amour à la libido. Et Véronique Mariage parlera de « En toi plus que toi » ou « Qu'est-ce que l'amour ?». Et enfin, clôturera le cycle avec cette fois-ci une nouvelle date ajoutée, puisque une des dates de conférence a été supprimée. Cette date, je vous la confirmerai par mail, mais elle sera, je dirais, à 98% de chance le 8 juin. Le 8 juin, c'est bien ça. C'est un lundi soir, donc c'est les mêmes horaires que notre cycle de conférences normal. Simplement, c'est une date supplémentaire. Et donc, ce sera Jean-François Lebrun. Ah oui, excusez-moi. Donc, Véronique Mariage parlera, j'ai interverti les deux titres, parlera sous le titre « Le sujet et l'autre ». Et Jean-François Lebrun clôturera le 8 juin sous le titre « En toi plus que toi » ou « Qu'est-ce que l'amour ?». Voilà, ce qui nous permet de voir l'ensemble du séminaire en rajoutant une date et avec quelques changements de conférenciers en raison des agendas. Alors, ce que je vous propose, puisque c'est aussi mon rôle dans le cycle de conférences, c'est que lors de la prochaine conférence, donc le 16 du 3, je prendrai un petit quart d'heure en introduction pour retisser le fil rouge entre le propos de Béatrice Brault de ce soir et le propos sur lequel enchaînera Patricia Torrecuso, en vous donnant, j'ai envie de dire, les forces directrices du chapitre Tuquet Automaton dont devait nous parler Yves van der Weken, ce qui permet de garder la construction du séminaire. Voilà. Je vais passer la parole à Béatrice Brault, qui est psychologue et qui reçoit ici à Mons en tant que psychologue et psychanalyste, et qui aussi a une pratique à Valenciennes dans un institut. Alors, je vais.
C'est pas un institut spécialisé comme souvent les enfants croient, même si, les enfants, les adultes croient. C'est tout simplement ce qu'on appelle en Belgique un home d'enfants, où les enfants sont placés sur mesure judiciaire, sauf qu'on a mis en place une certaine façon de faire qui fait que voilà, on accueille des enfants effectivement psychotiques et quelques autistes, et voilà, en général quand les enfants vont pas trop mal, ils sont plutôt orientés par les travailleurs sociaux en famille d'accueil, et quand des problèmes sont perçus sans qu'ils soient forcément détectés, ils arrivent plutôt donc à la maison de la petite enfance. Voilà.
Où tu travailles?
Où je travaille depuis un peu plus de 20 ans maintenant.
Voilà. Voilà. Et donc ce soir, tu nous parles sous le titre L'inconscient freudien et le neutre. Voilà.
Voilà. Donc j'ai proposé de développer, hein, de reprendre tout un parcours de Freud. Voilà, j'espère que je vais pas trop vous ennuyer, parce qu'effectivement, relire Freud, c'est quand même c'est une sacrée tâche, hein, je trouve. Et voilà, j'ai essayé que ce soit pas trop ennuyant. Et j'avais envie de commencer par une petite citation pour ouvrir un petit peu. Attends, le micro est loin, par contre. Merci. Je vais commencer par une petite citation d'un auteur, Elisabeth Leclerc-Razavec, qui est psychanalyste à l'ECF, qui a écrit tout un livre sur l'inconscient sort de la bouche des enfants. Et donc je commençais comme ça. Voilà. Qu'est-ce que l'inconscient? Je la cite, hein. La chose n'a pas encore été comprise. Alors là, elle reprend une phrase de Lacan. Voilà ce que déclare Lacan à son assemblée à l'Institut français de Naples le 14 décembre 1967. Et notons-le bien, il vise les psychanalystes. L'être humain a donc besoin d'être rassuré face à cette découverte freudienne. Oui, l'inconscient dérange. L'inconscient fait peur. L'inconscient menace, car l'inconscient commande. Enfin, je trouvais ça très parlant de démarrer comme ça, parce que vous allez voir dans ce que je vais expliquer, on pourrait dire ça aussi de nos jours, même tout près de chez nous, la parole dérange aussi. L'inconscient, c'est le nom qu'a donné Freud à sa découverte selon laquelle l'homme n'est pas maître en sa demeure. Lacan, dans Télévision, fait cette précision majeure. Il n'y a d'inconscient que chez l'être parlant. L'inconscient, ça parle, ce qui le fait dépendre du langage. C'est dans les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse que Lacan souligne avoir abordé le concept d'inconscient sans pouvoir le séparer de la présence de l'analyste. Par cette présence, le savoir est supposé comme sujet de l'inconscient. Et si l'inconscient sait de ne pas se rappeler de ce qu'on sait, c'est aussi « je le savais déjà ». Tel est le ressort de l'inconscient dans son lien irréductible au langage. Donc le titre que je vais commenter à partir des propos de Lacan dans ce chapitre, hein, qui s'intitule « L'inconscient freudien et le nôtre ». Donc c'est la première partie, c'est un chapitre qui concerne la première partie du séminaire qui s'appelle « L'inconscient et la répétition ». Cette partie s'intéresse à deux des quatre concepts fondamentaux. L'inconscient, la répétition, et deux autres étant le transfert et la pulsion. J'ai écrit, je vais peut-être remonter là. J'ai mis quelques repères au tableau hein, pour un petit peu... voilà. Parfois, voir écrit, c'est un peu plus clair. Voilà, donc j'ai réécrit les quatre concepts. En sachant que nous, on s'intéresse à la partie ce soir qui est dans l'inconscient et la répétition. Alors, le titre « L'inconscient freudien et le nôtre » laisse entendre déjà qu'il y ait plusieurs inconscients. À notre époque où l'imagerie médicale a pris beaucoup d'ampleur pour expliquer le fonctionnement organique de l'être humain et ses dysfonctionnements, il pourrait être tentant pour certains à nous entendre parler sous ce titre de vouloir photographier, loger dans notre cerveau là où se trouverait l'inconscient freudien ou tout autre inconscient. Lorsque nous parlons d'inconscient, d'une part, il ne s'agit pas d'un organe ou d'une zone du cerveau. Il s'agit d'un concept psychanalytique parmi d'autres, aidant à penser, à réfléchir, à analyser ce qui se joue chez l'être humain. Cet être humain que nous pouvons qualifier de complexe. Il y a donc dans l'inconscient, conçu par Freud, l'inconscient conçu par Freud et le nôtre, quel serait-il ? C'est Lacan qui parle, donc il y aurait en quelque sorte l'inconscient lacanien. Comme nous le verrons aussi bien avec Freud que Lacan, un concept, ça se retravaille, ça évolue, ce n'est pas quelque chose de figé. Bien sûr, comme le dit Lacan, page 15 du séminaire, il y a certains termes presque religieux qui ont été avancés par Freud, fondateur de la psychanalyse, pour structurer l'expérience analytique. Ces termes sont, entre autres, les quatre concepts repris par Lacan dans le séminaire que j'ai cité à l'instant. Dans le champ de la psychanalyse, un certain nombre de termes, de concepts, ont évolué, dont ces quatre concepts en question, au regard de ce que la pratique clinique a pu enseigner. Jacques-Alain Miller, dans un séminaire qui s'intitule « Le partenaire symptôme » en 1997-98, précisément dans le cours du 19 novembre 1997, reprend une parole de Lacan. « C'est toujours à la pratique que la théorie, enfin, a à passer la main. » En introduction dans ce chapitre 2, Lacan tient à commencer par faire un petit rappel. Lacan tient à faire entendre, page 22, que pendant des années, tout son effort a été nécessaire pour revaloriser aux yeux de certains cet instrument qui n'est autre que la parole. Lacan a mis tout son effort pour redonner à la parole sa dignité, je le cite. « Que la parole ne soit pas ces mots d'avance dévalorisés, forçant alors ces mêmes personnes à fixer leur regard ailleurs pour en trouver le répondant. » Lacan dit cela en 1964. Est-ce que 50 ans plus tard, aujourd'hui donc, les praticiens, cliniciens orientés par la psychanalyse ne doivent pas redoubler cet effort face à ce constat généralisé où l'on fait fi de la parole de l'autre, du sujet ? On pourrait même dire aujourd'hui où on ne veut pas de la parole de l'autre. On en fait fi, voire même on la rejette. Que ce soit dans une pratique privée ou institutionnelle, devenus les dépositaires de cette plainte. Beaucoup de sujets se plaignent, que ce soit à l'école, à l'hôpital, dans des institutions, sur des lieux de travail, du peu de cas qui est fait de leur parole. Ou encore, certains parents, certains patients, mettent en avant le peu de cas que font les professionnels, des enseignants parfois, de leurs paroles qu'ils adressent à leurs enfants ou à eux-mêmes, sans se sentir responsables de leurs paroles et de ses effets. Ce qui est monté au rang d'une certaine dignité à notre époque, on en a déjà parlé plusieurs fois aussi, ici, c'est l'évaluation, le rendement, le tous pareil. N'oublions pas non plus tous ces pays, alors maintenant on peut mettre dans beaucoup, presque tous les pays finalement, où la psychanalyse, voire même tout simplement le fait de se réunir pour parler, on pourrait rajouter pour dessiner, enfin voilà, se réunir à plusieurs est interdit ou menacé de mesures de rétorsion. La parole adressée à l'autre en ce qui concerne celle du psychanalyste Jacques-Alain Miller, dans ce même séminaire que je citais à l'instant, a une position très claire là-dessus. Je le cite. « Je pose ça, dit-il, qui est un peu extrême. Je pose qu'un analyste est responsable de ce qu'il a voulu dire et de ce qu'il n'a pas voulu dire, mais qui a été entendu. Et c'est dans ce sens que l'analyste serait celui dont la responsabilité à l'endroit de sa parole est radicale. Ça veut dire qu'il a à répondre non seulement de ce qu'il dit, mais encore de ce qu'il laisse entendre. Et ce qu'il laisse entendre, il lui revient de le calculer. » Enfin, je trouve ça très, très fort. Hein, c'est... Nous percevons bien que cette éthique est aux antipodes de ce que nous entendons dans ces diverses plaintes auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de manière générale de la parole qui singularise chaque sujet ? Donc retenons avant tout, en guise d'introduction, que la parole est l'instrument privilégié de la psychanalyse. Entrons à présent dans la première partie du titre, l'inconscient freudien. Lacan, page 17, nous rappelle que le chemin de l'inconscient proprement freudien, ce sont les hystériques qui l'ont appris à Freud. Nous y reviendrons. L'inconscient freudien, dit Lacan, page 26, n'a rien à faire avec les formes dites de l'inconscient qui l'ont précédé, voire accompagné ou bien qui l'entoure encore. Lacan nous renvoie, si on veut en avoir un aperçu, au dictionnaire de Lalande où est fait une très jolie énumération de 8 à 10 formes d'inconscient qui, dit Lacan, n'apprennent rien à personne. Ces formes désignent simplement le pas conscient, le plus ou moins conscient. Dans le champ, de même, dans le champ des élaborations psychologiques, on trouve 1000 variétés supplémentaires. Sur ce point, Lacan nous avertit tout de suite. Je le cite, page 26. L'inconscient de Freud n'est pas du tout l'inconscient romantique de la création imaginaire. Il n'est pas le lieu des divinités de la nuit. Jung, s'étant tourné vers cet inconscient romantique, explique en partie pourquoi Freud l'a répudié. La psychanalyse freudienne, dit Lacan, page 27, introduit autre chose que cet inconscient fourre-tout hétéroclite. Freud n'a donc pas inventé l'inconscient, mais il s'est forgé son propre concept clé de la psychanalyse dont il est l'inventeur. Dans ce chapitre 2, Lacan parle d'abord de l'inconscient à partir de l'anthropologie et de la linguistique avant d'en arriver à Freud. Il évoque la pensée sauvage de Lévi-Strauss, surtout pour voir ce que Lévi-Strauss apporte à son idée à lui que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est-à-dire, il faut entendre à travers cette phrase qu'avant toute expérience subjective, avant toute déduction individuelle, avant même notre venue au monde, existent déjà certains rapports de parenté en particulier. Nous entrons dans ce système qui est le monde et du seul fait, d'y entrer, déjà existent des rapports interdits et des rapports autorisés. Au moins dans notre système, dit Lacan, on y entre avec certains rapports interdits sur le plan de l'accouplement sexuel, par exemple l'interdit de l'inceste, règle qui n'est transmise par personne et qui fonctionne toute seule. Pour entrer dans le vif du concept d'inconscient, Lacan met en avant que c'est de ça qu'il s'agit. Des signifiants, des mots, des règles, des ordres, fonctionnant tout seul d'une façon pré-subjective. On comprend déjà un peu mieux sa formule « l'inconscient est structuré comme un langage ». Pour parler des 4 concepts fondamentaux de Freud, nous nous apercevons que Lacan ajoute très vite 2 autres termes que j'ai précisé quelque part. Voilà. Il ajoute quoi comme terme ? Le sujet et le réel. Ces 2 termes ne sont pas de Freud, mais de Lacan. Tout au long de ce séminaire, Lacan tentera de situer les concepts freudiens dans leur relation à ces 2 termes, donc dans la relation au sujet, dans la relation au réel, et bien sûr dans leur relation aux 3 registres, que ce soit l'imaginaire, le symbolique et le réel. Pour exposer son idée de l'inconscient, Lacan se réfère aussi à la linguistique, dont le modèle est le jeu combinatoire opérant dans sa spontanéité tout seul d'une façon présubjective. Ceci nous donne l'idée d'une chaîne de signifiants qui se combinent à leur guise selon certaines lois que Lacan étudie d'ailleurs dans un texte des écrits qui s'intitule « L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud ». Il y soutient que les signifiants s'accommodent entre eux de deux manières, soit en se combinant, soit en se substituant. Lacan nous explique que cette manière qu'ont les signifiants de jouer entre eux est sa traduction du processus primaire décrit par Freud. On va y revenir. Sous la forme de deux mécanismes que nous connaissons sous les noms de condensation et déplacement. Ces deux mécanismes, dit Lacan, ne sont autres que ce que notre linguistique dénomme métaphore et métonymie. Freud, contemporain de Saussure, ignorait les avancées de la linguistique de son époque. Regardons de plus près comment Freud a construit son concept d'inconscient tout en découvrant ses mécanismes. Donc, comme je le disais à l'instant, Freud a découvert l'inconscient avec ses patientes hystériques. Et dans le même temps, il découvrait la nature du fantasme et celle du trauma. C'est dans le mouvement même de parler que l'hystérique constitue son désir. De sorte que, dit Lacan, page 16, qu'il n'est pas étonnant que ce soit par cette porte que Freud soit entré dans ce qui était des rapports du désir au langage et qu'il ait découvert les mécanismes de l'inconscient. L'auto-analyse de Freud via l'analyse de ses rêves. Alors, j'avais un petit truc que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps par rapport, je le rajoute, concernant l'auto-analyse de Freud. J'ai retrouvé, enfin, quelqu'un m'a mis la puce à l'oreille, un petit article de Jacques-Alain Miller qui était intervenu dans les années 80, il me semble, à Buenos Aires. Et concernant l'auto-analyse de Freud, il en dit quelque chose. Il dit qu'en réalité, je vais le sortir, je l'ai pris là, vite fait avant de partir, parce que j'aime bien, j'espère que je ne l'ai pas oublié. Je trouve ça intéressant parce que j'avais jamais vu ça écrit en tout cas. Voilà, c'est exactement un colloque à Buenos Aires en 1983. Comment analyse-t-on aujourd'hui ? Voilà. C'est dans l'article précisément qui s'appelle « La pantomime hystérique et obsessionnelle ». Et ça a été édité dans une revue, un petit condensé, un livre de plusieurs auteurs en 2009. C'est pas traduit, c'est en espagnol. Je vais le lire en français. « Vous ne savez pas que Fliss était délirant, enfin, soit en passant. Vous ne connaissez pas son livre sur le nez ? Ah, c'est un texte fondamental pour l'histoire de la psychanalyse. » Il a été traduit en français dans la collection du docteur Lacan pour qu'on puisse voir qui était le lieu de l'analyse de Freud. Vous savez qu'il n'y a pas d'auto-analyse de Freud. Au début, quand j'ai lu ça, je dis qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'il a été analysé. Il s'est analysé dans sa relation avec Fliss et durant toute cette période de l'invention de l'analyse, ce dernier, avec ses théories sur le nez, fut précisément pour lui un sujet supposé savoir. On a déjà parlé pendant des années de ce que c'est que le sujet supposé savoir. C'est pourquoi sa parole a pour Freud une valeur incroyable. On peut dès lors parler de relation transférentielle de Freud envers Fliss et il n'importe pas que ce sujet supposé savoir ait été un délirant. C'est pour cette raison que quelqu'un peut s'analyser avec un type du style de Fliss. La notion de sujet supposé savoir indique justement que ce n'est pas un sujet qui sait. Il n'est pas nécessaire de garantir cela. Un supposé savoir est suffisant. Tout ça, l'anecdote concernant... je venais de le lire là ce week-end, donc je ne pouvais pas ne pas le dire, concernant l'auto-analyse. Donc, on va dire l'auto-analyse de Freud, mais quand même, qui s'adressait, on va dire, à un sujet supposé savoir qui était Fliss, à travers l'analyse de ses rêves, l'a conduit à ce qu'il a nommé l'ombilique du rêve, c'est-à-dire le refoulement primordial. On va y revenir. Freud va dégager donc deux modes de fonctionnement de l'appareil psychique contemporain de sa découverte des processus inconscients. Ces deux modes de fonctionnement sont le processus primaire et le processus secondaire. Donc vous avez peut-être quand même pour certains déjà entendu parler de ça. Alors là j'ai écrit ça, je ne sais plus où. Voilà. Donc je trouvais que c'était important, là, quand il fait allusion, de faire un détour. On peut difficilement parler de l'inconscient si on ne parle pas du processus primaire et du processus secondaire. Et on verra pourquoi dans le fil de mon exposé. D'un point de vue topique, le processus primaire caractérise le système inconscient. Le processus secondaire caractérise le système préconscient-conscient. D'un point de vue économique et dynamique, ça, on reprend, hein, Freud était beaucoup en la topique, la dynamique, voilà. D'un point de vue économique et dynamique, voyons ce qu'il en est. Dans le cas du processus primaire, l'énergie psychique s'écoule librement, passant sans entrave d'une représentation à une autre, selon les mécanismes du déplacement et de la condensation. Cette énergie, dit Freud, tend à réinvestir pleinement les représentations attachées aux expériences de satisfaction constitutives du désir. Dans le cas du processus secondaire, l'énergie est d'abord liée avant de s'écouler de façon contrôlée. Les représentations sont investies d'une façon plus stable, la satisfaction est alors ajournée, permettant ainsi les expériences psychiques qui mettent à l'épreuve les diverses voies de satisfaction possibles. L'opposition entre processus primaire et secondaire est corrélative de celle entre principe de plaisir et principe de réalité. Au fil des années, pour théoriser sa conception de l'inconscient, Freud va élaborer deux topiques. Dans sa première topique, Freud dégage trois instances. L'inconscient, le préconscient, le conscient. Tout d'abord, parlons du conscient. Le conscient est fréquemment utilisé par Freud comme synonyme de conscience. Il s'interroge sur le bien fondé de l'opposition entre phénomène psychique et phénomène physiologique à propos de l'hypnose. Il préconise que l'état conscient, quel qu'il soit, n'est lié ni à toutes les activités du cortex cérébral, c'est un neurologue qui parle aussi, hein, ni à un degré égal à aucune de ses activités particulières. Le conscient, dit Freud, ne semble localisé nulle part dans le système nerveux. Dans les études sur l'hystérie, Freud met en avant la scission du conscient, le clivage de la conscience. Ce clivage constitue un chaînon essentiel dans le processus de la découverte de l'inconscient. Freud fera valoir que le complexe psychique constitué par le souvenir d'un incident sexuel et du blâme qu'il entraîne a commencé par être conscient pour ensuite être refoulé. Le conscient n'emportant plus qu'une trace. Freud rencontre la question de la conscience, c'est-à-dire du fait de devenir conscient, en étudiant la déformation dans le rêve. L'accès à la conscience du contenu du rêve, sous sa forme manifeste, est permis par la censure qui exerce sur le matériel inconscient les modifications qui lui conviennent. Cette conception conduit Freud à considérer ce fait de devenir conscient comme un acte psychique spécifique, bien distinct de la pensée et de la représentation. Il lie l'activité consciente au processus perceptif, ce qu'il nomme en 1915 dans sa métapsychologie le système perception-conscience. Deuxièmement, Freud va situer le préconscient entre l'inconscient et le conscient. Il est séparé de l'inconscient par une censure sévère qui empêche l'accès des contenus inconscients, tandis qu'à l'autre extrémité, la censure entre le préconscient et le conscient est perméable. On comprend pourquoi très rapidement il met le préconscient-conscient ensemble. Souvent, il l'écrit d'ailleurs avec un trait d'union. C'est pourquoi Freud... Ben voilà, je le dis. Je ne sais pas que je l'avais écrit. Donc, Freud soulignera que l'une des caractéristiques du préconscient tient à sa proximité à l'égard des représentations de mots et donc du langage. Troisièmement, l'inconscient. Pour Freud, l'inconscient n'est pas une supraconscience ou un subconscient situé au-dessus ou au-delà de la conscience. L'inconscient devient réellement une instance à laquelle la conscience n'a pas accès, mais qui se dévoile à elle par le rêve, le lapsus, les jeux de mots, les actes manqués. L'inconscient, selon Freud, a cette particularité d'être à la fois interne au sujet et à sa conscience et extérieur à toute forme de maîtrise par la pensée consciente. En 1898, dans une lettre à Fliss, Freud situe la naissance de l'inconscient chez l'enfant entre 1 et 3 ans, période où se forme l'étiologie de toutes les psychonévroses, dira-t-il. Nous percevons bien le lien avec l'entrée dans le langage, le fait de se mettre à parler et l'émergence de l'inconscient. Lacan dira qu'avant cet âge, l'enfant n'agit pas de manière inconsciente, mais de manière innocente. Avant 1915, l'inconscient est conçu par Freud comme institué par le refoulement et son contenu. Son contenu est assimilé à du refoulé, exception faite du noyau de l'inconscient, fondement du fantasme. En 1915, les choses changent. Tout ce qui est refoulé, précise Freud dans Métapsychologie, doit nécessairement rester inconscient. Mais nous voulons d'entrée de jeu poser comme tel que le refoulé ne recouvre pas tout ce qui est inconscient. Le refoulé en est une partie. On voit bien toute son évolution au fil des années. Les contenus de l'inconscient, ce sont non les pulsions comme telles, car elles ne peuvent jamais devenir conscientes, mais ce que Freud appelle des représentations, sorte de délégués des pulsions fondés sur des traces mnésiques. Entre 1920 et 1923, Freud entreprend sa refonte théorique, aboutissant à une mise en place d'une seconde topique, dont les instances sont le moi, le surmoi et le ça. L'inconscient perd alors sa qualité de substantif pour devenir une manière de qualifier les trois instances de la seconde topique. Nous assistons donc chez Freud à une dissolution du concept de l'inconscient. Même si Freud insiste sur le maintien de l'inconscient comme axe essentiel de sa nouvelle conceptualisation, certains courants du freudisme, l'anaphrodisme, l'égopsychologie, ont progressivement interprété la seconde topique en un sens réducteur et privilégié la partie consciente du moi. Dans leur perspective, le moi doit devenir, grâce au traitement psychanalytique, l'instance la plus forte de la personnalité au détriment du ça et de la partie inconsciente du moi. Jacques-Alain Miller, toujours dans son cours « Le partenaire symptôme », développe ce qu'est être lacanien de nos jours au regard de l'enseignement de Freud et par opposition à Anna Freud et Melanie Klein. On avait déjà parlé de ça il y a 1-2 ans, je ne sais plus, un petit peu. Bon, là, j'ai un petit peu résumé. Je le cite. Par rapport à cet Anna Freudisme, être lacanien a pu jadis avoir le sens d'un retour à Freud. Premièrement, être lacanien, c'était revenir à la première topique derrière la seconde. Être lacanien voulait dire prendre en compte la découverte de l'inconscient et donc épeler les premiers textes de Freud. C'est ce que j'ai essayé un peu de faire. Ça m'a pris un certain temps de remonter dans tout ce... Voilà. Et donc d'épeler les premiers textes de Freud considérés comme dépassés par l'anaphrodisme. C'était aussi reconsidérer les termes de la seconde topique à partir de la première et en particulier interpréter le surmoi, le ça, la pulsion de mort à partir de l'inconscient. Être lacanien, c'était prendre comme concept fondamental non pas le moi, mais l'inconscient. Être lacanien, ça voulait dire, ne pas être anaphrodien. Être lacanien, ça devient une question à condition d'admettre qu'il y a d'autres façons que celle de Lacan d'interpréter Freud et même d'interpréter la psychanalyse. Je trouve ça intéressant. Il dit ça parce qu'on va en arriver justement à Mélanie Klein. Être lacanien, ça prend son sens, par exemple, par rapport à être clénien. Être clénien, ça existe, mais pas tellement en France, dit-il. D'autres courants, donc tels que ceux représentés par Mélanie Klein, ont conservé l'inconscient freudien au centre de leur conception, tout en déplaçant leur attention vers la relation archaïque à la mère, au détriment de la sexualité et de la fonction paternelle. Jacques-Alain Miller, dans ce même cours, explique ce qu'est être clénien. Être clénien, ça consiste à ajouter quelque chose à Freud. Ça consiste à recentrer l'expérience analytique sur la relation primitive de l'enfant avec le sein de la mère. Sur le plan de l'interprétation, le lacanien prend le sujet au moment où il arrive à l'analyse, on pourrait dire un peu comme Freud, ici et maintenant, où il s'insère dans le dispositif. Alors que le clénien prend le sujet au premier pas de son existence de vivant, relation mère-enfant. Le clénisme trouve sa matrice de référence dans le couple mère-nourrisson, le lacanisme la trouve dans le couple analyste-analysant. Le lacanien trouve que tout n'est pas intéressant dans ce que jaspine le patient. C'est de façon fugace, de temps en temps, que fuse le retour du refoulé. Il faut attendre l'émergence du lapsus, du mot d'esprit, le faux pas, le rêve, pour que la parole se fasse pleine. Alors que pour le clénien, il n'y a pas de parole vide, c'est-à-dire que tout est à interpréter. Et en effet, au niveau de la pratique, c'est une grande différence. Les cléniens parlent autant que les patients. Pour eux, tout est à interpréter, l'inconscient n'est pas un aspect résiduel. D'emblée, le lacanisme entre dans l'expérience analytique avec une antinomie, à savoir ce n'est pas une écoute globale, c'est une écoute qui est répartie, ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de l'ordre de la fantasmatisation, qui enferme tout ce registre dans l'axe imaginaire et qui invite à en dégager quelque chose de beaucoup plus rare, qui est la parole vraie, là où la dynamique symbolique est susceptible de remanier ce qui est imaginaire et contingent. Et pour cela, Jacques-Alain Miller refait le petit schéma qu'on a déjà fait plusieurs fois ici. J'ai de la place. Le fameux schéma avec, je vais mettre ça comme ça, avec l'axe, je suis en train de le faire, alors oui, A prime, qu'on appelle l'axe imaginaire, et puis où là, il s'agit de l'axe symbolique. Eh bien, lui, il dit qu'en gros, être clénien, c'est quoi? C'est analyser sur ce plan-là, sur l'axe imaginaire. Tandis que être lacanien, de temps en temps, s'intéresse à ce qui se passe au niveau symbolique et à ce qui vient faire point de butée au niveau de l'axe symbolique sur l'axe imaginaire. Enfin, en gros, il représente, il explique ça avec ses petits schémas. En tout cas, c'est sûr qu'une analyse lacanienne ne se joue pas que sur un axe imaginaire, ça c'est sûr. Alors attendez, je m'y retrouve dans mes pages, j'ai fait plein de retours. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette seconde topique de Freud, après ce petit détour, je trouvais ça important d'aller relire comme ça ce que Anna Freud en avait fait par rapport à Mélanie Klein, et en quoi c'est important de s'intéresser à la seconde topique, ce soit Lacan, Miller, mettre beaucoup l'accent. On peut pas comprendre la seconde topique si on ne fait pas référence à la première topique. Et ça a été un tort à tous les courants qui ont voulu finalement raser complètement ce qu'il en est de la première topique. Jacques-Alain Miller, dans son enseignement, ne fait que ça au fil des années. Quand il analyse le premier temps de Lacan, le deuxième temps de Lacan, l'après-Lacan, le dernier temps, il est toujours très sensible à ça. Il ne faut pas balayer ce que Lacan a pu dire. Voilà, ça reste valable quand on étudie certaines choses. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de cette seconde topique de Freud, premièrement, le moi est en grande partie inconsciente. Alors, c'est volontairement parce que moi j'ai des souvenirs, j'ai vu à la fac hein, des enseignants, mais j'étais en première ou deuxième année, donc ça date un peu. Je sais plus où je l'ai écrit. Ah oui, voilà. Je vous l'ai mis exprès à côté parce que première topique, seconde topique, et j'ai retrouvé dans des anciens cours, j'avais gardé manuscrit à l'époque, on prenait toutes les notes à la main. Des enseignants faisaient ça, c'est-à-dire qu'ils mettaient première. Alors comment ils faisaient déjà que j'ai retrouvé? Ouais, c'est ça. Alors première topique, deuxième topique, et alors on mettait inconscient et ils faisaient comment des flèches. L'inconscient, c'est le ça. Alors ensuite ils mettaient le préconscient, c'est le surmoi, le conscient, le moi. Enfin, j'ai retrouvé des choses assez étonnantes. Et je crois que ça s'enseigne parfois quand j'ai des stagiaires. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle... Je me dis à tous les coups. Et ça, c'est encore des choses qu'on dit. Alors que c'est faux. Si on lit Freud, mais texto, si on le lit, ce n'est pas ça que Freud écrit. Il n'écrit pas ça. Et c'est important. Parce que quand, si on analyse les choses comme ça, évidemment, alors à ce moment-là, on peut pas imaginer que dans le moi, ce que je suis en train de dire, il y a une partie inconsciente. Si on cliffe tout. C'est-à-dire qu'on a essayé de superposer les deux topiques, alors que ça ne se superpose pas. Mais ça se lit, la seconde se lit à partir de ce qu'on dit de l'inconscient de la première topique, ce qui est complètement différent. Donc c'est pour ça, volontairement, j'ai pas voulu les écrire l'un en dessous de l'autre. Je me dis des fois qu'il y en aurait qui seraient tentés de faire des flèches et d'assimiler. Voilà. Donc le moi est en grande partie inconsciente et non pas uniquement consciente. Le moi est la partie du ça, dit Freud, qui a été modifiée sous l'influence directe du monde extérieur par l'intermédiaire du système perception-conscience. Bon, ça, c'est Freud et son jargon, hein. Freud ajoute que le moi est avant tout un moi corporel. Et ça, je trouve ça aussi finalement très intéressant. Quand on parle, voilà, l'enveloppe du corps, imaginaire, enfin, tout ce qu'on peut dire, voilà, ou quand on travaille avec les enfants ou même des adultes, quand on parle de l'image du corps, qu'est-ce que c'est que l'image du corps? Ben oui, l'image du corps, il y a pas que la partie imaginaire, il y a aussi tout le symbolique qui se noue. Enfin, finalement, quand on relit ça, on se dit, il était quand même déjà bien orienté. Le moi est avant tout donc un moi corporel, une sorte de projection mentale de la surface du corps. Le moi n'est pas maître en sa demeure. Nous voyons ce moi comme une pauvre créature devant servir 3 mètres et subissant par conséquent la menace de 3 dangers. De la part du monde extérieur, attendez, j'ai raté une page, de la part de la libido, du ça, et de la sévérité du surmoi. Ce qu'il faut retenir encore de cette seconde topique concernant le ça est conçu comme un ensemble de contenus de nature pulsionnelle et d'ordre inconscient. Du point de vue économique, le ça est pour Freud le réservoir premier de l'énergie psychique. Du point de vue dynamique, le ça entre en conflit avec le moi et le surmoi. À partir de 1915, au prix d'une lente maturation fondée sur l'expérience clinique, Freud parvient à la conclusion que les grandes parties du moi et du surmoi sont inconscientes. Freud l'écrit. Il n'a pas écrit autre chose, il n'a jamais écrit ce que je vous expliquais tout à l'heure, où il faut superposer. Et après, on se demande comment se fait-il que des gens aient pu interpréter alors que ce n'est pas ça du tout qu'il écrit. Quand on dit Jacques-Alain Miller encourage à les épeler comme ça, épeler, éplucher les textes de Freud, on comprend pourquoi. Dès lors, il devient impossible d'affirmer l'existence d'une identité entre le moi et le conscient d'une part, le refoulé et l'inconscient d'autre part. L'introduction du terme « ça » lui permet de reviser entièrement la conception des rapports conscient-inconscient exprimés dans la première topique. Le « ça » devient le siège de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. Le moi n'est plus strictement différencié du « ça » dans lequel le surmoi plonge ses racines. Et enfin, ce qu'il faut retenir de la seconde topique concerne le surmoi. Le surmoi plonge effectivement, comme dit Freud, ses racines dans le ça et exerce sur un mode impitoyable les fonctions de juge et de censeur à l'égard du moi. Dans le texte « Le moi et le ça », Le surmoi est encore mal différencié de l'idéal du moi. Bon, je ne vais pas trop développer ça ce soir, mais il est considéré comme inconscient, à l'instar d'une grande partie du moi. Il précise la nature des relations du surmoi avec le moi. Je le cite, « Tandis que le moi est essentiellement représentant du monde extérieur de la réalité, le surmoi se pose en face de lui comme mandataire du monde intérieur du ça. » En 1933, donc on avance encore, dans sa 31e leçon des nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, Freud, après avoir présenté l'instant surmoïque comme un senseur délégué par les instances sociales auprès du moi, donne le tableau de formation du surmoi et de ses fonctions. En un premier temps, le surmoi est représenté par l'autorité parentale, qui rythme l'évolution infantile en alternant preuve d'amour et punition, génératrice d'angoisse. En un second temps, lorsque l'enfant renonce à la satisfaction œdipienne, les interdits extérieurs sont intériorisés. C'est le moment où le surmoi vient se substituer à l'instance parentale au moyen d'une identification qui sera distincte chez la fille et chez le garçon. Bon, là, je dis tout ça très vite. Chez le garçon, le surmoi revêt un caractère rigoureux, parfois féroce, qui résulte, dira Freud, de la menace de castration vécue lors de la période œdipienne. Chez la fille, le parcours est différent. Le complexe de castration s'étant installé bien avant l'Œdipe. Le surmoi féminin sera par conséquent moins oppressant et moins impitoyable. Enfin, tout ça, moi, je trouve ça intéressant au niveau de position féminine, masculine, que ce soit homme-femme. Là, on parle bien de position féminine. Hein, ça peut être pour les questions après. Freud souligne aussi que le surmoi ne se construit pas d'après le modèle des parents, mais d'après celui qui est constitué par leur propre surmoi. Ça, c'est intéressant. Sinon, ça veut dire que tout ça, ce serait pure identification imaginaire. Et c'est pas ça qu'il dit, Freud. Ce serait si simple. Si un parent est comme ça, un père, une mère, l'enfant, ou je sais pas, la fille ou le garçon qui s'identifie. Non, tout ça ne se joue pas que sur un mode purement imaginaire. Il y a le propre surmoi des parents qui intervient. Parallèlement à l'élaboration de ces deux topics, Freud va construire sa théorie du refoulement. L'idée de refoulement apparaît très tôt dans l'élaboration de sa théorie de l'appareil psychique, avant même cette lettre à Fliess du 6 décembre 1896, dans laquelle il met en place la définition inaugurale de sa première topique. Il écrit « La théorie du refoulement est à présent le pilier sur lequel se repose l'édifice de la psychanalyse, son élément le plus essentiel. Le refoulement est l'expression théorique d'une expérience que l'on peut répéter aussi souvent qu'on veut lorsqu'on entreprend l'analyse d'un névrosé. « Je m'élèverai, dit-il, très violemment, contre celui qui prétendrait ranger la théorie du refoulement et de la résistance parmi les présupposés de la psychanalyse et non parmi ses résultats. La théorie du refoulement est une acquisition du travail psychanalytique. » Et là, ça rejoint tout à fait ce que Lacan disait, que voilà, la théorie aussi n'avance pas sans la clinique. Pour Freud, le refoulement désigne le processus visant au maintien dans l'inconscient de toutes les idées et représentations liées à des pulsions et dont la réalisation productrice de plaisir affecterait l'équilibre du fonctionnement psychologique de l'individu en devenant source de déplaisir. Freud va remanier plusieurs fois sa définition du refoulement et considérer le refoulement comme constitutif du noyau originel de l'inconscient. Dans le moi Elsa, Freud écrit « Le refoulé n'est nettement séparé du moi que par les résistances du refoulement, tandis que par le ça, le refoulé peut communiquer avec le moi. Le refoulé ne recouvre pas tout l'inconscient. Il ne s'agit pas que le moi doive déloger le ça, comme ce qui est écrit dans certaines traductions, mais il faut entendre, ça Lacan et Jacques-Alain Miller l'ont souvent repris, mais il faut entendre, là où c'était, le sujet doit devenir. Et non, ce qui a été mal traduit, que le moi doive déloger le ça. C'est pas ça que Freud écrit dans sa langue et qui a été mal traduit, mais il faut entendre, lire, là où c'était, le sujet doit advenir. Freud distingue donc trois temps constitutifs du refoulement. Il y a ce qu'il appelle le refoulement proprement dit, c'est-à-dire le refoulement après coup. Une idée ou une représentation liée à des pulsions dont la réalisation productrice de plaisir affecterait l'équilibre du fonctionnement psychique en devenant source de déplaisir, se trouve alors repoussée dans l'inconscient. Deuxièmement, il y a ce qu'il appelle le refoulement originaire, qui est assimilé par Freud à une fixation résultant d'un refus initial de prise en charge d'un représentant d'une pulsion par le conscient. Ce représentant refoulé subsiste de façon inaltérable et demeure lié à la pulsion. En 1926, Freud émet l'hypothèse d'une effraction primordiale résultant d'une force d'excitation particulièrement intense. Troisièmement, il y a ce qu'il appelle le retour du refoulé. Donc on a le refoulement proprement dit, le refoulement originaire et le retour du refoulé. Il se manifeste sous la forme de symptômes, de rêves, d'oublis et d'autres actes manqués que Freud considère comme des formations de compromis. En 1920, dans Au-delà du principe de plaisir, Freud va développer d'autres implications théoriques toujours à partir du constat de sa pratique clinique. Il s'agit de la répétition et du complexe et de la compulsion de répétition, pardon. Freud et déjà Breuer soulignent l'importance de la répétition dans leur approche de l'hystérie en parlant de la remémoration d'une souffrance morale liée à un traumatisme ancien. Ils concluront ensemble que c'est de réminiscence surtout que souffre l'hystérique. Freud va poursuivre sa réflexion, sa recherche. Il constate la nécessité d'aller plus loin et d'expliquer pourquoi les incidents sexuels, générateurs de plaisir au moment de leur production, provoquent chez certains sujets, lors de leur réapparition ultérieure sous forme de souvenirs, du déplaisir, alors que chez d'autres, ils donnent naissance à des compulsions. Il va aussi s'intéresser aux névroses de guerre, au cours desquelles les sujets ne cessent de revivre en pensée, en rêve, des épisodes douloureux. Il approfondit encore sa réflexion. Si ces formes de compulsion à la répétition sont bien l'aspect que Freud, que prend le retour du refoulé, il est impossible de soutenir qu'elles obéissent à la seule recherche du plaisir. Et il demeure une sorte de résidu qui échappe à cette détermination. Il existe un au-delà du principe du plaisir. Cette compulsion, cette force pulsionnelle qui produit la répétition de la douleur, traduit l'impossibilité d'échapper à un mouvement de retour en arrière, que son contenu soit ou non déplaisant. Ce mouvement conduit Freud à postuler l'existence d'une tendance à un retour vers l'origine, vers l'état de non-vie qui suppose le passage par la mort. C'est alors que Freud introduit sa fameuse pulsion de mort qui sera controversée car cette notion vient déranger, bousculer les esprits. Freud va très peu utiliser le terme de jouissance lorsqu'il parle de la répétition, des pulsions, du plaisir et du déplaisir dans son texte Au-delà du principe de plaisir. Mais il y fait quand même allusion et on retrouve deux fois le terme jouissance. Il fait allusion à la jouissance quand il évoque le mot d'esprit. Je le cite. Si un mot d'esprit est répété une seconde fois, il risque de ne plus faire rire puisque le ressort de la surprise est supprimé. On récupère une part de la possibilité de jouissance manquée par suite de l'absence de nouveauté en la tirant de l'impression produite par le mot d'esprit sur le nouvel auditeur. De même, dit Freud, il est difficile de décider un adulte qui a beaucoup aimé un livre à le relire aussitôt en entier. La nouveauté sera toujours la condition de la jouissance, mais l'enfant, lui, ne se fatigue jamais. Hein. Le petit jeune enfant qui demande toujours en lire, toujours le même, les mêmes phrases, mot à mot. Il explique que chez l'enfant, chaque nouvelle répétition semble aussi améliorer cette maîtrise vers laquelle tend l'enfant. Lacan vient apporter de l'eau au moulin pour nous aider à comprendre le ressort de ce phénomène de la répétition. Je le cite dans le séminaire page 53. C'est en effet d'une rencontre essentielle qu'il s'agit dans ce que la psychanalyse a découvert, d'un rendez-vous auquel nous sommes toujours appelés avec un réel qui se dérobe. Je continue une citation, page 54. Le réel est ce qui gît toujours derrière l'automaton, c'est-à-dire le réseau des signifiants. Le réel se présente sous la forme de ce qu'il y a en lui d'inassimilable, sous la forme du trauma. C'est bien cette rencontre du réel toujours manquée qui convoque toujours à d'autres rendez-vous. Le réel, dit Lacan, page 49, est ici ce qui revient toujours à la même place, à cette place où le sujet, en tant qu'il cogite, ne le rencontre pas. C'est une rencontre toujours manquée. Ce qui se répète chez un sujet a toujours à voir avec sa position inconsciente fantasmatique, même si ça s'apparente à du hasard. Lacan dit, page 58-59, « La place du réel va du trauma au fantasme. Le fantasme n'est jamais que l'écran qui dissimule quelque chose de tout à fait premier, de déterminant dans la fonction de la répétition. Exemple, dans l'analyse d'un rêve, le réel, c'est au-delà du rêve que nous avons à le rechercher. Dans ce que le rêve a enrobé, nous a caché. Venons-en à la seconde partie, enfin, dont j'ai déjà un petit peu fait des va-et-vient, la seconde partie du titre et du séminaire de Lacan, ce qui concerne l'inconscient lacanien. Ce que nous pouvons déjà dire, c'est qu'à partir de son séminaire 11, Lacan va commencer à se passer de Freud, mais tout en s'en servant. C'est-à-dire qu'il ne balaye pas complètement tout. Il s'en sert, mais il va aller au-delà. L'hypothèse que va soutenir Lacan tout au long de son enseignement est que de l'inconscient, nous n'avons aucune preuve, si ce n'est quand ce mécanisme, cette ronde des signifiants rate. Lacan affirme qu'on ne connaît l'existence de l'inconscient que par ces phénomènes examinés en détail par Freud dans l'interprétation des rêves et la psychopathologie de la vie quotidienne. Ce n'est que là, quand ça achoppe, que Freud conclut par déduction à l'hypothèse de l'inconscient. Qu'arrive-t-il à un sujet, interroge Lacan, quand il se confronte au jeu linguistique de la métaphore et de la métonymie et qu'il produit des significations inattendues pour lui lors d'un rêve, d'un lapsus, d'un acte manqué? Il se produit cet effet de « je ne sais pas ce que je veux dire, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas de quoi je parle ». On dit et on entend très souvent cela en analyse. Pourquoi diable a-t-il fallu que je fasse ce rêve? C'est ça l'inconscient. Ces effets qui se produisent chez celui qui a fait un rêve et qui demande « dites-moi qui a fait ce rêve, ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas, je ne voulais pas dire ça, pas du tout », tout en le racontant. De la même manière, pour reprendre l'exemple cité par Lacan, page 24, nous pourrions nous demander « qui est celui qui dit « j'ai trois frères, Paul, Ernest et moi ». Celui qui parle se met au dehors, alors que l'un des trois est lui-même. On voit bien que le sujet ne sait pas où se ranger. Qui est celui-là qui ne sait pas dire les choses? Voilà l'aspect de l'inconscient qui intéresse Freud. Ce n'est pas l'inconscient de la linguistique, ni celui de l'anthropologie, ni celui des lois du langage, même s'il s'en est inspiré. L'inconscient qui intéresse Freud, dit Lacan, est celui qui oblige à la supposition d'un sujet. La nouveauté que Lacan développe dans son séminaire, même s'il l'avait déjà évoqué avant dans « Subversion du sujet », dans un autre texte, c'est la différence entre l'inconscient et le sujet de l'inconscient. Si l'inconscient rate, si je ne sais pas ce que je dis quand je parle, si je rêve de ce dont je ne veux pas, alors qui fait tout cela? Voilà ce qui fait apparaître la supposition du sujet de l'inconscient. Cette supposition se dégage du statut même de l'inconscient. Il y a des signifiants qui jouent entre eux et parallèlement dans ce jeu, il y a le « je ne sais plus où j'en suis ». Lacan dit page 27 à propos de tous ces inconscients élaborés par différents auteurs et courants de pensée. À tous ces inconscients, ce que Freud oppose, c'est la révélation qu'au niveau de l'inconscient, il y a quelque chose en tout point homologue à ce qui se passe au niveau du sujet. Ça parle et ça fonctionne d'une façon aussi élaborée qu'au niveau du conscient. Lacan écrira d'ailleurs le sujet S barré. Je crois que je l'écris. Oui. La barre indiquant qu'il s'agit d'un sujet qui ne sait plus qui il est, ni de quoi il parle, qui est l'auteur du rêve. il n'attribue pas non plus celui-ci à son voisin. Quand on se pose la question, mais c'est pas moi, je me reconnais pas, bon, on n'est pas en train de se dire, c'est le voisin qui a parlé pour moi. Ou alors, comme dit Lacan, là, il se range sous un autre diagnostic que la névrose. Donc, lorsqu'il range le sujet sous la catégorie de la névrose, il dit « le sujet se retrouve divisé ». L'inconscient a une telle structure que la combinaison de deux signifiants produit un effet de sens, une signification qui laisse le sujet perplexe. Ce n'est que, faut regarder le petit schéma que j'ai fait, S1 qui renvoie S2, et voilà, je vais le commenter. Donc, l'inconscient a une telle structure que la combinaison de deux signifiants, donc on peut dire S1, S2, produit un effet de sens, une signification qui laisse le sujet perplexe. C'est pourquoi il est barré. Ce n'est que le second signifiant qui, par effet rétroactif, d'où la flèche, donne une signification au premier signifiant. C'est dans ce « je ne comprends pas » que réside la supposition de sujet. Le sujet est donc condamné à la division entre la fonction d'être représenté par le signifiant et ce qui ne peut être représenté par le signifiant. Quand un sujet parle, ce n'est jamais tout à fait ce qu'il veut dire. Ce qui se produit de l'inconscient dans cette béance, c'est-à-dire dans l'achoppement, la défaillance, la fêlure, la division, se présente comme la trouvaille propre au sujet. Mais, précise Lacan, page 27, cette trouvaille est retrouvaille. Mais qui plus est, elle est toujours prête à se dérober à nouveau, instaurant la dimension de la perte. Freud assimile cette trouvaille au désir, et Lacan dira « la structure du désir est hystérique, puisque c'est l'hystérique qui révèle la vérité du désir dans une recherche qui aboutit à l'insatisfaction, à un « ce n'est pas ça, ce n'est jamais ça ». C'est en cela que cette attraction pour l'objet perdu fait que sa recherche recommence toujours et encore. La fonction de ratage est donc au centre de la répétition analytique. Lacan précise que la répétition dans son lien à l'objet comporte une double face. Premièrement, l'une est l'attraction par l'objet, d'où sa recherche et sa répétition en lien avec la répétition de la déception, du côté du « jamais assez ». L'autre étant celle de l'évitement. Le sujet évite cette rencontre traumatique avec l'objet et il évite cette mauvaise rencontre en tant qu'excès. Et là, on est du côté versant toujours trop. En même temps, quand on lit ça, on y voit un petit peu la structure hystérique, structure obsessionnelle. L'inconscient freudien, dit Lacan, se situe à l'endroit de la clocherie, c'est-à-dire entre la cause et ce qu'elle affecte. Chaque fois, dit Lacan, que nous parlons de cause, il reste quelque chose d'indéfini, d'irrationnel. D'autre part, il ne faut pas oublier, comme le souligne Lacan, page 28, que l'inconscient revêt le caractère de discontinuité, tel que Freud l'avait mis en avant. L'inconscient n'est pas à déchiffrer de manière chronologique, dans une certaine continuité d'ailleurs avec la séance précédente. C'est pourquoi Lacan dégagera une conception de la temporalité de la séance. Il a voulu en quelque sorte inventer un dispositif qui soit solidaire de l'inconscient, sans lui faire obstacle. Ce dispositif suscite l'aspect évanouissant, la fulgurance, qui en accueille l'instant où il se manifeste. Pourquoi ? Afin d'éviter que l'analyste tombe dans le « toujours, cela veut dire que, ce que vous voulez dire veut dire que », qui vient écraser l'effet de la surprise. Donc là, on voit bien qu'on est à l'opposé de ceux qui interprètent tout. Là, il n'y a pas de parole vide, tout est plein. Si l'analyse vient en remettre trop du côté du sens, ça vient empêcher la possibilité que le sujet de l'inconscient se dévoile. Lacan aspirait à une séance où prédominait la discontinuité, la trouvaille, l'inattendu. L'important, dit Lacan, page 25, n'est pas que l'inconscient détermine la névrose, mais que l'inconscient nous montre la béance par où la névrose se raccorde à un réel, qui peut bien lui n'être pas déterminé. Dans cette béance, il se passe quelque chose. L'opération analytique a un impact au niveau de cette béance. Mais, interroge Lacan, cette béance, une fois bouchée, est-elle guérie ? Il répond que la question reste ouverte. Par contre, dit-il, page 25, la névrose devient autre, parfois simple infirmité, cicatrice, comme dit Freud. Non pas cicatrice de la névrose, mais de l'inconscient. Ça, je trouve ça très subtil de pointer ça aussi. non pas cicatrice de la névrose, mais de l'inconscient. Freud avait déjà constaté qu'une fois la vérité du symptôme révélée, interprétée au regard de l'inconscient, le symptôme ne s'évanouit pas pour autant. Il y a un résidu, il revient. C'est pourquoi il s'était lancé dans la création de différents concepts. La réaction thérapeutique négative, le masochisme primordial, la résistance du ça, la pulsion de mort, etc. Lacan, plus tard dans son enseignement, mettra lui aussi en avant qu'une analyse, que la pratique analytique ne vise pas la guérison du sujet, même si des effets thérapeutiques surgissent, bien sûr, mais vise à apprendre à savoir y faire avec le symptôme. Jacques-Alain Miller dira que cette série de concepts freudiens que j'ai cités à l'instant, réaction thérapeutique négative, masochisme primordial, tout cela. Donc Jacques-Alain Miller dira que cette série de concepts freudiens que je viens de citer a invité Lacan à un passage. Ce passage va en sens contraire du symptôme comme dysfonctionnement révélant une vérité. Il va prendre le symptôme comme un mode de fonctionnement, donc non plus comme un dysfonctionnement, mais comme un fonctionnement qui met en avant le mode de jouir du sujet, ou encore qui permet dans certains cas au sujet de se construire dans le monde et de se soutenir dans le monde. Pour conclure sur l'inconscient freudien et l'inconscient lacanien, je vais vous citer un autre passage, un petit passage d'un livre d'Hélène Bonneau qui s'appelle L'inconscient de l'enfant, qui est aussi une autre analyste de l'ECF. J'ai retrouvé un petit passage intéressant. Freud nous a laissé un inconscient réservoir de souvenirs qui aurait un effet traumatique dans la vie d'un sujet. L'analyse serait le passage à la conscience de ce qui était enfoui. Lacan a, lui, rendu l'inconscient plus actuel. Il s'agit non pas d'un passage à la conscience, mais d'un passage à la parole, qui doit être entendu par quelqu'un là où elle ne pouvait même être lue par personne. Message dont le chiffre est perdu ou le destinataire mort. Là, elle reprend finalement une citation de Lacan dans le discours de Rome. « C'est pourquoi, dit-elle, l'inconscient est au dehors, il est à venir. Il n'est pas une poche de souvenirs à faire remonter à la surface, mais il représente un certain rapport du sujet avec ce qu'il sait. L'inconscient lacanien s'écrit en séance. Il n'est pas déjà là. Il serait là au sens où d'avoir été là puis oublié. » Il pourra advenir comme événement dans la séance même. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour ce parcours très approfondi de la séance et du chapitre et tout le retour que tu as fait sur le travail de Freud qui est très éclairant. La première chose qui me vient à l'esprit en entendant ta conclusion, c'est au fond ça rejoint peut-être ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire la place de la parole du sujet dans la société actuelle, mais bon, ce sujet pris à différents endroits au niveau de sa vie en société, mais si on revient à ce que tu dis ici en fin de conférence sur la place de cette parole dans le travail analytique, il me semble que d'abord ça montre sa place, j'ai envie de dire exceptionnelle, hors du commun, où elle peut se déployer, et toute la question au fond que ça pose aux analystes, mais finalement aux analysants aussi, de rendre compte ou de tisser des liens au niveau de la société par rapport à ce travail. Mm-hmm. Puisque finalement, le symptôme, pour commencer par lui, est vu non pas comme quelque chose qui devrait disparaître d'office, mais comme quelque chose qui peut être repris autrement. Déjà, à partir de ça, montre une façon de se situer qui est vraiment très différente. Et donc,
Ça me semble fort important. Peut-être parce que je me dis actuellement, justement dans la société dans laquelle on vit, que les analystes et les analysants ont peut-être une responsabilité à faire entendre cette différence qui n'est pas si évidente que ça, puisqu'elle part effectivement, comme tu le soulignais, à l'inverse de bon nombre de démarches. Donc ça m'a... Enfin, je repars du point de départ de ta conférence à sa conclusion. Ça me semble encore plus actuel, j'ai envie de dire, malheureusement, de plus en plus actuel. Oui, tu avais proposé, donc je m'y accroche, qu'on revienne sur la question du surmoi, notamment des différences, disais-tu, chez la fille et le petit, et le petit garçon via le complexe de castration. Et tu soulignais bien qu'il s'agissait de positions féminines et masculines. Alors, ça a fait écho à une question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette donc de ce rôle du surmoi par rapport à cette question de position féminine et masculine et par rapport à un autre type de vocabulaire? Au fond, je suis aussi dans le lien aux pratiques qui nous entourent lorsqu'on parle du genre. Ça, c'est une question qui m'est venue en t'écoutant. Voilà.
C'est tout un débat. Ouais. Enfin, moi, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que position féminine, masculine. J'avais déjà présenté un travail il y a 2 ans là-dessus, un colloque. Moi, je l'avais vu plus du côté de la jouissance autre. Et je trouvais intéressant de voir ça aussi du côté, en prenant ça du côté du surmoi. Je veux dire, enfin, c'est en écrivant que les choses viennent. Et bon, je me suis dit, enfin, en tout cas, c'était une question que j'avais envie de développer. Cette histoire de surmoi comme ça qui peut être différent. C'est pour ça que je dis pas l'homme, la femme, le garçon, voilà, position féminine, position masculine. Voilà, on entend dire parfois, on va mettre de côté Médée, on va dire, hein, parce que Médée, bon, ça va être aux antipodes de ce que je vais dire. Ou de plus en plus, voilà, on a l'impression que, alors en même temps, je réfléchis, on a l'impression que parfois, quelqu'un qui est en position féminine, il va y avoir un côté parfois un peu plus tolérant, moins voilà. Enfin, je voyais ça du côté par rapport à voilà ce que Freud pouvait déjà dire comme ça quand on surmoi que alors lui disait côté garçon fille, hein, un garçon est un garçon. Oui, bon, c'était voilà, il faisait avec son temps aussi, avec son époque. Et enfin voilà, c'est un peu ça que moi voilà, je réfléchissais un peu à ça. J'essayais de réfléchir, à me dire par rapport à Freud, la manière dont il, parce que lui il parle quasiment pas de jouissance, hein, à part deux endroits où j'ai trouvé là dans quand j'ai cité tout à l'heure, mais lui il met ça du côté le surmoi. Bon, le surmoi à voir avec la jouissance de toute façon. Ça voilà. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant au niveau de la réflexion. On entend dire beaucoup au niveau politique, il faudrait que dans certains pays où c'est vraiment catastrophique ce qui se passe, il faudrait qu'il y ait plus de femmes, qui soient un petit peu au pouvoir, qui viennent un peu aider à aplanir les choses. Donc c'est pas la femme en soi parce que c'est la femme, mais je pense que c'est peut-être lié justement à la position féminine, où parfois, ça me faisait penser à la réflexion d'une petite fille, une jeune patiente comme ça, qui me disait il y a pas longtemps, c'est bizarre, hein, tu sais, hein. On dirait que les mamans, elles entendent plus de choses que les papas. Bon, elle a un papa un petit peu particulier, c'est vrai, mais elle a 8 ans, hein, du haut de ses 8 ans, ah oui, tu crois? Bon, elle est en train de développer ça, quoi. Enfin, je trouve ça intéressant, quoi. C'est côté, elle me disait, enfin, elle disait pas plus ouvert, mais c'est ce que ça voulait dire, quelque chose de plus à même d'entendre. d'entendre des choses de. Enfin voilà. Enfin bon, là, j'ai peut-être un peu. Enfin non, j'ai pas dévié, mais ça me faisait penser à cette parole de cette petite fille la semaine dernière.
Je vais pas lire. Je te mets ce. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des points que vous voulez soulever. Oui.
Moi, je voulais revenir brièvement sur la question de l'inconscient et de la catégorie de la cause. Il n'y a de cause que de ce qui cloche. Vous avez bien fait de rappeler ça et de le citer dans ce passage, page 25, qui est qui va beaucoup plus loin que ce que qui peut aller beaucoup plus loin que ce que Lacan dit, c'est qu'il dit. Il dit ça dans quelques phrases très simples, mais qui sont aussi simplement énigmatiques et qui vont néanmoins très loin. Tout d'abord, c'est que ce qu'on pourrait dire ça, l'inconscient, c'est important à dire même dans des murs universitaires, l'inconscient n'est en rien un déterminisme. C'est que le déterminisme, vous avez raison de dire que ça commande. Alors, c'est sûr que ça commande, mais il y a différentes. Ce n'est pas un programme. Il n'y a pas quelque chose qui a. On nous enseigne à l'école que le rapport de cause. Enfin, on parle de rapport de cause à effet. On a toujours l'impression que c'est un rapport absolument obligé, obligatoire, et pas du tout. Le rapport de cause à effet, c'est que entre la cause et l'effet, il n'y a aucun automatisme.
Oui, j'aurais pu parler aussi, il y a tout l'aspect qui dit, bon, on peut pas parler de tout, il parle aussi de la contingence qui est importante aussi, voilà.
Le déterminisme, ça c'est un automatisme. Si on nous inocule un quelconque virus, il y a des chances qu'on soit malade. N'est-ce pas? Et si le virus est fort, ce sera un automatisme rigoureux. Enfin, je dis ça, bon. Et encore, il semble que ce ne soit pas toujours aussi simple que ça. Mais enfin, disons, imaginons un moment où il y a un déterminisme qui peut être assez simple. Si on nous tire un coup de feu, on risquera d'être mort si on le reçoit au mauvais endroit, ça c'est sûr. Bon. Et l'inconscience n'est absolument pas ça, justement. C'est intéressant de voir, à le relire comme ça, il définit ça comme une clocherie, une bévue. Lacan insistera même beaucoup là-dessus. Il fera même d'une certaine façon de l'inconscient même une certaine débilité de l'être parlant. Mais une débilité par rapport à quoi? C'est que ce qu'il dit dans ses phrases aussi, j'ai bien fait vraiment de le répéter parce que c'est très intéressant, c'est que l'inconscient c'est quelque chose qui cloche en nous. Mais ça résulte de quelque chose, ça résulte d'une rencontre. D'une rencontre d'un réel. Et là, qui par définition, comme vous le dites, est absolument imprévu. Et donc, c'est la façon, quand on a rencontré quelque chose qu'on ne peut littéralement situer nulle part, c'est ça, un réel, qui est absolument. Eh bien, ça a des effets, on se met à en rêver, on se met à développer, par exemple, un symptôme, on se met à faire un tas de choses, non pas à devenir fou, mais ça nous affecte. Et l'inconscient, c'est cette affection même, dans le fond.
Et c'est bien pour ça qu'une même personne, deux personnes qui, a priori, vivraient le même réel, une catastrophe, vont le vivre de manière tout à fait différente par rapport à comment ça fait rencontre pour chacune de ces personnes.
Absolument.
Voilà.
Absolument. Deux frères. Deux frères, même jumeaux, n'ont pas nécessairement le même inconscient, même si on peut penser qu'ils ont eu affaire au même stock de signifiants. Mais ce qu'on ne dit pas. Alors, c'est quelque chose qui dans ce séminaire-là, commence à venir, mais c'est encore très ténu. Quand il parle du hasard, il dit comme au hasard, il en fait un semblant, alors que plus tard, cette action de hasard, la contingence va devenir de plus en plus forte. Parce que ce qui fait que deux personnes, après tout, deux frères ayant la même famille, enfin, ayant le même père, la même mère, ayant vécu la même chose, n'ont pas le même inconscient, c'est que tout simplement, ils ont beau avoir le même programme, ils n'ont pas nécessairement fait les mêmes rencontres. Et donc, la rencontre, c'est ce qui fait que telle partie du programme est investie ou telle autre partie ne l'est pas. Mais donc, Lacan la situe là, l'inconscient, de façon donc très simple. C'est à ça que je voulais en venir. C'est que l'inconscient, on pourrait dire ça, c'est que l'inconscient, qu'est-ce que c'est pour moi, là, au plus simple? C'est ce qui en vous, en nous, témoigne du réel qu'on a rencontré. Mm-hmm. C'est une espèce de pont. Mm-hmm. C'est une espèce de pont avec un réel dont c'est forcément absolument énigmatique, enfin absolument opaque. Mm-hmm. C'est la façon dont on essaye de chiffrer, de se raconter l'opacité. Mm-hmm. Et évidemment, Lacan dit que c'est une bévue, Lacan met ça du côté même de la débilité, c'est qu'on se la raconte toujours mal. On peut avoir rencontré une femme ou un homme, en général, en temps de paix, c'est les rencontres qu'on peut faire les plus fréquemment. Forcément, on se met en rêver, c'est qu'il y a... Il y a quelque chose là-dedans qu'on... Une rencontre est toujours un peu traumatique, même quand on décore ça du nom d'amour.
Oui, puisqu'on parle, Jacques Alain Miller ou Lacan, on parle de percussion aussi. Percussion, comment dans la rencontre, les mots qui percutent, que ce soit un mot aimable ou déplaisant, il y a quand même cet effet de percussion. De percussion au niveau du langage, au niveau du corps, voilà.
Une autre question ou remarque ou... Oui.
Merci. Donc vous avez parlé de béance, c'est ça?
De béance, oui.
C'est quoi ça?
Un vide, une fêlure, un trou, un manque, on peut l'appeler, voilà. Oui, c'est une façon aussi de définir le réel, ce qui vient faire trou, énigme. Et ça fait trou et énigme de différentes manières pour suivant chaque sujet.
Bon, eh bien, je propose qu'on en reste là et qu'on remercie Béatrice Brau. Merci beaucoup. Et à dans un mois.